Alors, Pierre-Yves, tout d'abord, baisse du volume des ventes aux États-Unis pour la brasserie Molson Coors.
Oui, 7 $ sur 10, tu sais, des revenus de Molson proviennent des États-Unis, donc c'est extrêmement important, donc baisse de près de 6 % au Canada, 2,5. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le rendement là, en bourse là, sur un an, baisse de 33 % du titre. Et aujourd'hui, grande baisse de plus de 15 % Et ce qui est intéressant, c'est de voir le ratio, Paul. Les actionnaires payent 9,4 fois ou 9,4 années les bénéfices pour une action. C'est-à-dire que l'entreprise est calculée comme étant une entreprise à très haut niveau de maturité. C'est-à-dire que la croissance, on y croit pas vraiment au niveau de l'actionnaire. On croit en une vente régulière, mais la consolidation du marché de la bière fait en sorte que les joueurs se regroupent et pour aller chercher des ventes supplémentaires, on va vers les petits, les microbrasseurs, par exemple Trou du Diable pour Molson Coors, Archibald pour Labatt, une entente avec les brasseurs de Montréal pour Molson Coors. Donc, on veut offrir aux restaurateurs et aux bars une diversité de bières et faire croire aux clients qu'on boit pas juste de la Molson, mais comme on boit tous les produits de la même compagnie, le fait de multiplier l'offre de microbrasserie fait en sorte qu'on peut attirer des bars, attirer des restaurants et à maintenant avoir ça dans notre clientèle et par la suite, évidemment, créer une habitude de consommation chez le consommateur. C'est ça qu'on cherche. Donc, maintenant, la microbrasserie est devenue une marque, mais ça veut plus dire que c'est une microbrasserie qui la possède. Ça peut être un grand brasseur mondial. Oui. Et ça fait en sorte que Molson, dans le moment, évidemment, au niveau des Américains, là, il y a une baisse, mais au niveau canadien, on tente de se diversifier avec les microbrasseries.
Alors, nous sommes évidemment à cette période de l'année, Pierre-Yves, dans les résultats de premier trimestre, parmi les compagnies qui vraiment doivent sourire aujourd'hui, Mastercard. Mastercard qui a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars, soit 1,41 $ américain, bien sûr, par action.
Paul, ce qui est fou dans les compagnies de carte de crédit, autant Mastercard que Visa, c'est qu'on est un intermédiaire. On ne prend pas le risque de commerce de détail, mais on prend de la marge. Comme, par exemple, Loblaws fait, par exemple, 3,3% de marge annuelle, mais la compagnie de carte de crédit passe, puis à chaque transaction, on va chercher un petit montant. Mais c'est des milliards de transactions par année qui génèrent de la valeur. Donc, quand on regarde les états financiers, c'est fulgurant. Tu sais, sur des revenus, là, pour un trimestre de 3,6 milliards, on a un bénéfice net de 1,5, donc on génère 42% de marge nette, Paul. Ça veut dire que, tu sais, on fait une pièce de revenu, on fait 42 cents de profit net. C'est complètement ahurissant. Et sais-tu qu'est-ce qui est le fun pour la compagnie de carte de crédit? C'est que oui, la banque, elle l'émet, donc prend le risque de crédit. Mais elle, si un commerce qui ferme, qu'est-ce qui arrive? Il y a un autre commerce qui naît. Et il y a des transactions qui se font. Que l'entreprise soit rentable ou non, les gens paient de plus en plus par carte de crédit parce qu'ils n'ont pas de liquidité et parce que c'est plus simple, par PayPal, Apple Pay. Donc, on se retrouve avec quoi? Avec une entreprise qui fait une captation de valeur sur chaque transaction, mais que le risque de gérer un produit ou de vendre un produit est transféré à quelqu'un d'autre.
Exact.
Donc, le risque, c'est le réseau. Faut pas que ça plante. T'sais, faut pas que ça plante. Les deux compagnies, faut pas que ça plante. Mais ils ont un effet de réseau complètement fou. Donc, au niveau de l'action, sur un an, là, 58% de rendement. On s'entend, c'est des joueurs qui prennent une cote sur une vente. Ils ne créent pas de produits, ils ne créent rien. Ils ne font que maintenir un système de transactions et ils font un paquet d'argent, Paul. Donc, écoute, juste te donner une idée, en 2016, en début 2016, là, l'action valait 100 $ de moins, tu sais, à peu près. Là. Donc, c'est donner une idée. Puis le ratio cours-bénéfice, 51. Ça veut dire qu'on croit en extrêmement grande croissance de Mastercard. Pourquoi? On dit qu'il va y avoir de plus en plus de transactions dans le monde, de plus en plus de transactions à travers le monde, Mastercard et Visa, et que dans le fond, les compagnies de carte de crédit ont une espèce de royauté ou de loyauté sur chaque transaction, et il n'y a pas assez de gros joueurs pour les concurrencer. Donc, c'est vraiment impressionnant.
Et sans parler des taux d'intérêt extrêmement élevés pour les gens qui sont captifs de ces compagnies.
Oui, mais évidemment, tu as raison, il y a ça, mais c'est les banques qui gèrent le taux parce que c'est elles qui prennent le risque de crédit. Par exemple, si vous avez une carte de crédit de banque, par exemple, de 20% de taux d'intérêt, c'est la banque qui prend le risque de crédit, donc de vous prêter. Mastercard et Visa ne sont que des intermédiaires qui fournissent le service de carte, mais la banque, elle, vous émet la dette. Donc, c'est elle qui vous permet de vous endetter.
Et on termine avec ce qu'on peut appeler le caractère finance, c'est-à-dire le volet finance personnelle, avec l'endettement chez les jeunes.
Oui, il y a eu un sondage, Paul, de Credit Karma au cours du mois d'avril et c'est repris dans l'article portefeuille, la section cash pour ados et jeunes adultes du Journal de Montréal, qui dit, dans le fond, les milléniaux, les plus jeunes, les jeunes adultes, ont de la pression pour consommer. Donc, sur 1045 répondants aux États-Unis, 40% ont dit qui ont déjà dépensé de l'argent, qui n'avaient pas le pouvoir, qui se sont endettés pour suivre leurs amis. Et Paul, c'est extrêmement intéressant. La pression sociale font que dans 40% des cas, on s'est endetté pour suivre le rythme de vie de ses amis. Et 73% de ces 40-là ont dit « Nous avons gardé secret le fait de dire « Nous n'avons pas les moyens de suivre nos amis. » Et l'explication, c'est quoi, Paul? C'est la fameuse « fear of missing out ». C'est quelque chose qui part avec l'âge, là. Tu sais, la peur de manquer quelque chose.
Exactement.
La peur de manquer un événement. Tu sais, quand on est plus jeune, Paul, on veut pas manquer le spectacle que tout le monde va. On a l'impression que si on n'est pas dans la soirée ou dans le restaurant où tout le monde est, on est comme out. On n'est pas là. On a peur de ne plus être invité.
Mais ça a été pas mal, ça, à toutes les générations.
Tout à fait, Paul.
Chez les jeunes.
La différence, c'est qu'il y a du crédit maintenant, tu sais.
Oui.
Donc, on a peur de décevoir autrui. Les autres raisons, peur de ne plus être invité la prochaine fois. On a de la pression des pères et on a peur de perdre des amis. Donc, on a peur de l'exclusion, dans le fond, et du jugement. Mais pour ça, on est prêt à se mettre complètement à nu au niveau financier. Et ça amène un sujet tabou, ça, Paul. C'est de sélectionner ses amis en fonction de notre capacité à les suivre. Je sais que c'est un sujet tabou.
Très dangereux.
Mais dans la vie, quand on évolue, est-ce que ça t'est arrivé, Paul, dans ta vie, de dire « Ces amis-là, je ne peux plus les fréquenter, ils sont trop riches à une certaine période. »
Ben, pas loin. Ben,
c'est-à-dire
que oui, t'es obligé, à un moment donné, de t'évaluer et dire « Où est-ce que je me situe par rapport à ce qu'on appelle les amis proches qui te mettent une pression ?» Une pression que toi, que tu amplifies toi-même et tu dis, mais je suis plus capable de les suivre.
Et il faut avouer, peut-être ils vont à quelque part, ils s'en vont dans un grand restaurant à 300 piastres le couvert, tu dis, moi, je ne peux pas vous suivre et je vais vous laisser y aller.
Alors, je réponds oui à ta question.
Tu l'as déjà fait. Ben moi aussi, il y a des gens chez Ernst & Young, écoute, ils avaient été élevés à Outremont, Westmount. Moi, je ne pouvais pas suivre ces gens-là, donc je me suis auto-exclu de ce cercle-là.
Exactement.
Je suis devenu une personne à part.
Oui, mais si tu essaies de t'accrocher, là, ça peut te coûter extrêmement cher.
Donc, vaut mieux, tu sais, gérer ses attentes plus basses, Paul. Puis, tu sais, pendant que les gens vont manger un filet mignon, ben moi, je mangeais un hot dog, mais au bout de la ligne, tu sais, je me suis trouvé des amis de ma classe sociale à l'époque. Puis, il y a une leçon à tirer de ça, c'est que l'endettement peut vous nuire de toute façon à long terme, même avec ces amis-là. Donc,
voilà. Merci, Pierre-Yves. Au revoir.